Donc on prend, on est dans 1 Corinthiens au chapitre 12. On va lire, et après je vais vous faire un très très rapide résumé de ce que nous avons vu la dernière fois, et on va continuer après à prendre les versets. Donc on va lire pas tout le chapitre, on va simplement lire du verset 1 au verset 11. Donc si quelqu'un veut le faire.
Concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon où vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.
Merci. Alors, on avait donc vu jusqu'au verset 6, et notamment une réflexion que nous avions avoir, c'est une traduction qui dit en ce qui concerne les dons spirituels, alors que l'original, c'est en ce qui concerne le spirituel, et ça ne paraît pas grand-chose, mais c'est quand même important parce que les dons ne sont que des outils que Dieu met à notre disposition, et l'objectif, ce ne sont pas les dons, mais c'est vraiment l'œuvre de Christ, le corps de Christ. Et donc, se focaliser juste sur les dons, déjà, c'est une erreur. Parce que les dons, voilà, sont des outils que Dieu nous apporte. Et le corps de Christ, le but, c'est vraiment l'unité des chrétiens. Et c'est pour cela qu'il y a ce chapitre 13 qui est tellement important, parce qu'on prend tout, hein, 12, 13, 14. Ce chapitre 13 tellement important qui nous parle de l'amour. Et quand on lit la description de cet amour, automatiquement on pense au Christ. Et c'est lui le ciment qui permet à ce corps de s'édifier et qui permet aussi à ces dons de s'exprimer de la manière dont le Saint-Esprit le veut. Et il y avait après ces versets qui sont un petit peu étonnants, lorsque Paul parle donc des idoles muettes, vous étiez avant emportés vers ces idoles muettes, et puis il va dire, personne ne peut parler par l'Esprit, ne peut parler mal de Jésus-Christ. Au contraire, par l'Esprit, on ne peut que glorifier le Christ. Et ça aussi c'est important, avec toutes les manifestations que l'on peut observer autour de nous, et d'avoir des éléments qui nous permettent de reconnaître, de discerner quel est l'esprit qui anime ces manifestations. Est-ce que c'est un esprit qui va glorifier le Seigneur? Et le Saint-Esprit ne peut que glorifier le Seigneur, puisque c'est son rôle. Le Consolateur, lorsqu'il sera venu, prendra de tout ce qui est à moi et vous l'annoncera, a dit Jésus. Voilà. Ou est-ce que c'est un autre esprit? Et il y a beaucoup de textes dans la parole de Dieu qui nous demandent d'être vigilants, hein, parce qu'il y a aussi des contrefaçons. Et ensuite, on voyait avec les versets 4 à 6 que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la Trinité tout entière est impliquée pour bâtir le corps de Christ. Et de même qu'il y a cette unité parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais cette diversité, et bien c'est un petit peu aussi l'image de ce que Dieu veut pour ses enfants, pour le corps de Christ. Nous sommes tous différents, mais il y a une unité parfaite. Et je vous faisais remarquer que quel dommage que le monde évangélique se divise, se déchire sur des textes qui pourtant sont des textes qui nous parlent de la véritable unité que nous devons avoir en Jésus-Christ. Voilà donc un très très rapide résumé. On avait parlé aussi un petit peu des diverses formes là, de doctrine. Voilà. Mais bon, dimanche aux annonces, j'ai dit qu'on allait arriver à la fin du verset 12. En fait, ce ne sera pas possible. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est Paul qui a dû me pousser à dire ça. Bon, alors j'ai préparé les diapositives jusqu'au verset 11. Je ne pense pas qu'on puisse aller plus loin. Si on peut aller plus loin, eh bien, on essaiera. Mais quelque part, on ne peut pas passer rapidement sur des textes sur lesquels, finalement, les chrétiens sont des textes qui ont pris prétexte pour des divisions. On ne peut pas passer rapidement là-dessus. Il faut au contraire vraiment s'attarder pour avoir une compréhension de la doctrine et ainsi vraiment ne pas être emporté à tout rang de doctrine. Et c'est ce qu'on voudrait faire ce soir. Et on va donc arriver au verset 7 que je vous relis. « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Donc ça, c'est un verset qui a une grande importance. C'est un verset vraiment qui est très très important. Il nous donne des principes, un petit peu comme des rails, deux rails très très importants, ou deux barrières, qui nous permettent de comprendre le cadre dans lequel doivent s'exercer les dons spirituels. Et ça, c'est vraiment primordial. Et on constate que ce cadre-là, des fois, eh bien, il est totalement oublié. Pourtant, c'est vraiment la base. Et si Paul commence par ce verset-là, par ces paroles-là, si après il va les répéter d'une façon un petit peu différente, c'est pas pour rien. Et on prend aussi un passage qui est similaire dans 1 Pierre au chapitre 4 et au verset 10. Je vous le lis dans la version second 21. « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Donc on retrouve des similitudes entre le verset 7 et ce texte de 1 Pierre. Deux rails, je vous ai dit, deux barrières de sécurité qui nous permettent de rester sur le bon chemin. Premier principe. Premier principe, ça veut dire que chaque chrétien a reçu au moins un don. Ça, on l'a déjà dit, mais c'est bien de le répéter. Chaque chrétien a reçu au moins un don, une manifestation de l'Esprit. Donc, ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire qu'on n'est pas au stade du hameau, où il y a deux équipes, 30 joueurs qui s'agitent sur le terrain, et puis tout un tas de spectateurs qui sont là et qui vont faire des remarques plus ou moins obligeantes. Non, non, chacun est sur le terrain, puisque chacun a été équipé, chacun est sur le terrain, et chacun doit participer à l'édification du corps du Christ, d'une manière ou d'une autre. Et cette manière-là, on le verra plus tard, c'est Dieu qui en décide, mais chacun a un rôle à jouer. C'est la mode du participatif. Il y a les magasins participatifs, vous savez, pour pouvoir acheter, il faut agir, soit mettre en rayon, soit tenir la caisse, etc. En fait, les hommes n'ont rien inventé parce que déjà là, en fait, c'est le participatif qui est dans la pensée de Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et à Corinthe, on se rend compte, avec tout le contexte de 1 Corinthien, que certains étaient très très fiers de certains dons. Et puis regarder avec un petit peu de dédain d'autres frères, parce qu'ils pensaient qu'ils avaient soit un petit don, soit pas de don du tout. Et c'était une façon de penser qui n'était pas du tout conforme à ce que nous enseigne la parole de Dieu. Et même, c'était tout à fait indigne, en plus, de la pensée pour des chrétiens. Et non, chacun de nous a reçu au moins un don, selon ce que le Saint-Esprit a voulu, pour l'avancement, pour l'édification du corps de Christ. Ça, c'est le premier rail. Et puis, le deuxième rail, à quoi ça sert un don? Pourquoi Dieu me fait cette grâce? Eh bien, Paul y répond aussi, ici, c'est pour l'utilité commune. Et toujours dans 1 Pierre, comme des bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Vous voyez la similitude. Pour l'utilité commune, pour l'édification commune, voilà le deuxième cadre pour l'utilisation des dons. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que cette manifestation, ce but visé, cette utilité commune, ce n'est pas pour l'épanouissement personnel. Donc mon don, il n'est pas pour moi. Alors effectivement, il y aura un épanouissement personnel, mais ça sera par ricochet. Ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal du don, c'est le cadre, c'est pour l'utilité commune. Et ensuite, effectivement, ça va me faire grandir. Mais ça, c'est un sous-objectif, on va dire, une conséquence de ce cadre-là, l'utilité commune. Voilà. Le don dont Dieu m'a pourvu, c'est pour tous. C'est pour l'Église, c'est pour mes frères et sœurs. Et c'est pour mes frères et sœurs que je suis là et que je sers Dieu au travers de mes frères et sœurs. Regardez aussi dans... tiens, pourquoi j'ai mis Ephésiens 4, 16. On va le prendre. Oui, je pense que c'est un passage qui doit de résumer. Si quelqu'un peut le lire, ça doit résumer un petit peu tout cela. Je ne me rappelle pas bien.
Ephésiens 4, 16.
Oui.
Et de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour.
Voilà, donc c'est vrai qu'on a quand même ici aussi un petit résumé. Hein. Voilà, tire son accroissement et chacune des parties, donc chacun d'entre nous, et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc voilà, et encore un autre passage qui nous montre que bien, nous sommes au service les uns des autres et les dons que nous avons, tous nous avons un don, c'est pour l'utilité commune, c'est pour le service les uns des autres. Galates chapitre 5, verset 13, c'est aussi un passage qui nous parle de ce service que nous devons les uns aux autres. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre pour suivre les désirs de votre propre nature. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Voilà. Lorsque nous comprenons que ces dons ont un cadre, eh bien, automatiquement nous nous mettons en service les uns des autres. Et comment pouvons-nous servir entre Dieu? En servant nos frères et sœurs. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Et rien que le mot service, le mot serviteur, nous montre qu'il n'y a aucune raison de se glorifier. Et donc, comme les Corinthiens vouloir prendre des dons spectaculaires en pensant ainsi eh bien, pouvoir s'élever au-dessus des autres, c'est passer totalement à côté de cet esprit, qui est cet esprit de service, être serviteur les uns des autres. Voilà. Et en plus, il y a aussi dans le texte original une dynamique, tu vois, une notion de dynamique qui est donnée aussi ici. Alors, je reprends l'image du rugby. Manu, tu me corriges si je me trompe, c'est fort possible. Mais quand vous regardez une équipe de rugby, chaque joueur a un poste particulier, a un rôle particulier. Et par exemple, les premières lignes, bon, en général, ce sont des gaillards, hein, un petit peu comme moi. J'aime pas les sourires. Hein. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont percuter la défense adverse pour essayer de déplacer la défense adverse et créer ainsi des brèches sur les ailes. Et là, les ailiers, qui eux sont très rapides, vont pouvoir s'engouffrer. Donc, en fait, en étant à leur rôle, c'est ça, hein, en étant à leur place, ils permettent aux autres de s'exprimer. Et quelque part, dans le texte original, on a aussi cette idée, cette notion de dynamique. Et finalement, lorsque nous sommes dans ce cadre et que nous sommes à notre place, là où le Seigneur nous veut, eh bien, également, nous permettons aussi à nos frères et sœurs de pouvoir exprimer les dons qu'ils ont reçus. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est merveilleux, qui est tellement important, et quel dommage, finalement, que, eh bien, parfois, nous oublions ce cadre qui est primordial. Et vous savez, on a quand même une responsabilité par rapport à ces dons. On a une responsabilité. Et Colossiens chapitre 4, verset 17, Paul va dire « Dites à Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. » Et il y a d'autres traductions qui disent ceci « Prends garde au don que tu as reçu dans le Seigneur afin de le faire fructifier. » Donc on a une responsabilité. Nous avons tous un don qui est là, non pas pour nous, mais pour l'utilité commune. Voilà, le préambule est tellement, tellement important que nous avons ici avec ce verset 7. Et quelque part aussi, je voudrais après quand même rajouter aussi quelque chose. Là, ce que l'on lit ici, ça va à l'encontre de l'esprit de ce monde. Où il y a, au contraire, hein, c'est pas une dépendance, c'est au contraire chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Et c'est l'esprit du monde qui va m'inciter à tout ramener à moi. Et il en est ainsi aussi au niveau des dons que le Seigneur peut m'accorder. Tout ramener à moi. Et souvent on a cette mauvaise expression, on se dit mais quel est mon don? C'est pas une mauvaise expression, mais disons qu'il ne faut pas la garder toute seule. Hein. En fait, c'est pas mon don en premier. C'est son don, c'est le Saint-Esprit qui nous l'a donné. Ça lui appartient, c'est son don. Et déjà ça change quelque chose. C'est pas mon don en priorité, c'est le sien. D'accord ? Et lui, si il me l'a accordé, c'est pour une raison bien précise. Vous voyez ? Et si je suis conscient que c'est son don, que c'est le don du Saint-Esprit, il y aura une autre dimension qui va arriver. Automatiquement, ça ne sera plus mon don, mais ça sera votre don. Vous voyez ? Ça sera donc vraiment cette conscience que c'est pour mes frères et sœurs. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous, puisque chacun d'entre nous, nous avons reçu au moins un don. Hein, que chacun d'entre donc mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous serez ainsi des bons intendants, de bons dispensateurs, de bons gestionnaires, d'une autre traduction, des diverses grâces de Dieu. Hein. Donc voilà, indispensable de veiller à ce que ce cadeau, eh bien, reste une manifestation de la grâce de Dieu pour mes frères et pour mes sœurs. Voilà donc pour le verset 7. Alors, on va continuer. Je regarde l'heure parce que je vois que ça passe très vite. On va continuer, on va donc passer au verset 8 à 10. Alors, je vous les lis. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Alors, c'est une liste, et on va dire que c'est une liste non exhaustive. Il y a plusieurs listes dans le Nouveau Testament. Alors, il y en a une... C'est pas ça. Il y en a une qu'on ne va pas tenir compte. Elle est dans Marc, je pense. En fait, elle est particulière parce que c'est une liste de dons que le Seigneur va donner à ses apôtres pour qu'ils puissent prendre conscience que l'évangile, que la grâce n'est pas réservée au peuple juif, mais va s'ouvrir à toutes les nations. Et donc, il va leur dire, voilà, comment vous allez reconnaître et savoir que eh bien, la grâce de Dieu n'est pas que pour les Juifs, mais pour les autres nations. Et il va leur donner comme ça tout un tas de signes. Et on en reparlera notamment avec le chapitre 14. On reparlera de ça. Par contre, après, il y a d'autres listes de dons. Alors, c'est intéressant malgré tout de les voir. Simplement, je voudrais vous les lister, vous les faire passer pour nourrir votre réflexion. Et on va les prendre dans l'ordre chronologique. Donc la première que l'on a, c'est l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, c'est la lettre qui a été écrite en premier. J'ai mis 55-56, c'est à peu près l'année de la rédaction de la première épître aux Corinthiens par Paul. Donc il y a tous ces dons que nous avons lus ici, sagesse, parole de sagesse, de connaissance, la foi, le don des guérisons, d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues, et à la fin du chapitre 12, on a aussi les apôtres, les docteurs, le don de secourir, le don de gouverner. Donc c'est assez complet. Ensuite, la deuxième dans l'ordre chronologique, c'est la lettre aux Romains. Elle a été écrite en 56-58 à peu près, et là, c'est déjà beaucoup plus restreint. On a la prophétie, l'exhortation, le service, la libéralité, l'enseignement et la miséricorde. Après, on prend en troisième la lettre aux Éphésiens, qui a été écrite dans les années 60-62. Là, on a apôtres, pasteurs et docteurs, prophètes et évangélistes. Et puis, la dernière, dans 1 Pierre 4, donc là c'était en 64-65, le don de parole, le don du service. On a l'impression là qu'il y a juste deux catégories, en fait. Alors, cet ordre chronologique... certains le prennent pour montrer que, vous voyez, les dons ont disparu. Quelque part, c'est peut-être aller au-delà de ce qui est écrit. Donc on ne va pas tenir compte de cela. Simplement, ça nous apporte quand même quelques enseignements qui sont précieux. Je vous cite un texte de MacArthur. Je vous en citerai d'autres. Ça ne veut pas dire que j'adhère à la compréhension de MacArthur. Mais même si ce n'est pas toujours le cas, c'est un frère qui apporte beaucoup et qui a des écrits qui sont quand même très très riches, et donc ça vaut vraiment le coup d'en tenir compte. Et il va dire, les commentateurs ne s'accordent pas sur le nombre exact de dons et les distinctions qui existent entre eux. Donc ça ne sert à rien de vouloir lister les dons en disant, voilà, tel don, tel don, tel don, où est-ce que je me situe, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de liste précise. Puisque les listes ne sont pas identiques, il semble clair que Dieu n'avait pas l'intention de faire une énumération claire, précise ou complète, mais de donner des catégories. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est tout à fait judicieux. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que Dieu va équiper ses enfants, chacun d'entre nous, avec une grande diversité, et vraiment en tenant compte des besoins de son Église, des besoins vraiment spécifiques. Et quelque part, l'idée, c'est un exemple, hein, vous prenez 10 chefs étoilés, et vous leur donnez les mêmes ingrédients, le même poisson, les mêmes légumes, les mêmes épices, etc. Et ils vont chacun vous faire 10 plats succulents, mais qui seront différents. Et si en plus vous leur donnez des consignes en fonction des convives, certains ont tel besoin, etc., peut-être qu'ils iront même jusqu'à faire des plats qui tiendront compte des besoins des convives. En fait, c'est une faible image de ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Il va équiper chacun d'entre nous en fonction des besoins. Et il va prendre ces ingrédients, ces dons-là qui nous sont listés, il va les mélanger avec vraiment toute sa sagesse, tout son discernement, pour que nous ayons les ministères qui se sont totalement adaptés à notre besoin. Et croire que les dons sont accordés à quelqu'un et seront identiques toute sa vie, quelque part, ça aussi, c'est minimiser l'œuvre du Saint-Esprit. Je vous donne un exemple de notre Église. Vous savez que notre Église a été fondée par Christian Lefaïc, donc c'était en 72. Ici, certains le connaissent, mais peut-être que d'autres, beaucoup ne le connaissent pas. Et Christian Lefaïc, au départ, il a démarré cette œuvre, donc c'était une œuvre pionnière, on peut dire, et il avait un don d'évangélisation. Et il évangélisait, et il y a eu des conversions. Et Pierre Nicolau, je crois, notamment, a été le premier converti, c'est bien ça, hein, oui. Voilà, il y a eu des conversions. Et après, ces nouveaux convertis, il fallait aussi les enseigner. Et donc le Seigneur, eh bien, lui a mis aussi cette capacité d'enseigner. Et puis il fallait aussi après, eh bien, visiter les personnes qui étaient dans la difficulté. Et le Seigneur l'a équipé aussi de ce don pastoral. Et donc, vous voyez, ça n'a pas été constant. Mais donc Dieu l'a équipé au fur et à mesure des besoins de son œuvre qui était croissante. Donc voilà. Et vraiment, certains vont avoir, et là aussi ça nous montre combien il est dommage quelque part, de comparer. Certains vont avoir un don d'évangéliste, ce sont voilà, des évangélistes hors pair, et puis d'autres n'auront pas ce don. Et si on compare, ça rime à quoi? Dieu équipe son peuple en fonction des besoins, et c'est vraiment... L'équipe, ça nous rappelle l'équipe. Hein, voilà, hein. On est une équipe et chacun a un rôle particulier, donc chacun a un don particulier et chacun a une position particulière dans le corps de Christ pour l'édification commune, pour l'unité du corps de Christ. Toujours un texte de MacArthur. La combinaison des dons de chacun est aussi unique spirituellement que ses empreintes digitales le sont physiquement. Hein. Donc voilà. Donc on est tous différents et Dieu nous équipe de façon différente en vue d'un but bien précis, d'un objectif bien précis qui est donc l'avancement de son œuvre. J'ai entendu ou j'ai lu quelque part aussi cet exemple des flocons de neige. Je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un d'entre vous qui l'a signé.
Benjamin, dans un de ses messages.
Benjamin l'a signalé. Donc tous les flocons de neige sont différents. Oui, il avait même mis une photo. Tous les flocons de neige sont différents. Il n'a pas un pareil type de semblable. Et pourtant, tous ensemble, ils vont recouvrir le paysage, le changer totalement. Et puis, s'il y a une avalanche, elle est inarrêtable. Et voilà, on est tous différents. Hein. Mais si on est dans ce cadre que notre Dieu veut pour l'avancement de son règne, eh bien, quelque part, l'évangile sera inarrêtable. C'était la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et petite question. Voyons. Lorsque j'étais étudiant, j'étais dans une église, dans une ville où il n'y avait pas beaucoup d'églises à l'époque, et ça a changé. Et j'allais dans une église qui était du renouveau charismatique. Et quelque part, ce sont des frères et sœurs voilà, je remercie le Seigneur pour ces frères et sœurs qui m'ont entouré dans un moment particulier de ma vie. Et le pasteur se présentait, il disait, voilà, moi j'ai tous les dons. Dans une des études bibliques, il disait, moi j'ai tous les dons. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est possible? Que quelqu'un ait tous les dons.
Super doué. Super doué.
Quand on lit ces textes-là, non. Ça paraît pas possible. Ça va un petit peu en contradiction avec tout ce qu'on lit ici, et surtout la suite du passage qui nous montre que bien, le corps de Christ, comme le corps humain, à des membres différents qui tous ont une utilité. Hein, donc ça voudrait dire que ben, si quelqu'un a tous les dons, il est tout le corps à lui seul. C'est pas possible. Et pour vous montrer hein, la preuve de cela, c'est que comme ils pensaient sincèrement, après, et c'est pas pour critiquer, parce que vraiment, ça, ils m'ont vraiment entouré dans ces moments-là, mais comme ils pensaient avoir tous les dons, forcément, il n'y avait pas cette idée de transmission. Et vous savez, quand on est dans un ministère, quel qu'il soit, il faut toujours penser aussi à la transmission. Donc, voilà, voir, eh bien, peut-être former quelqu'un qui, un jour ou l'autre, eh bien, pourra prendre le relais. Et c'est ça aussi, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, pour chacun des ministères. Et comme lui pensait avoir tous les dons, eh bien, un jour, mes parents, en plus, venaient passer le week-end avec moi. Et puis je dis, tiens, mais on va aller au culte. Et on arrive au culte, et mon père était responsable à Biarritz d'une assemblée. Et la femme du pasteur arrive, c'était pile poil l'heure, elle dit, bon, mon mari est malade, là, il a, je ne sais pas s'il avait une gastro ou autre, il était cloué au lit. Et il dit, il n'y a personne pour le culte, est-ce que vous pouvez gérer le culte? Et mon père qui pensait être tranquille, il a dû se retrouver en première ligne. Mais quelque part, voilà, le fait de penser avoir tous les dons, eh bien, il n'y avait pas de possibilité après de transmission. Et quelque part, on est d'un côté indispensable parce que Dieu nous a mis à un poste bien précis. Il veut que nous ayons cette responsabilité dans le ministère qu'il nous a confié. Mais d'un autre côté, on n'est pas indispensable aussi parce qu'on sait que bien on a nos frères et sœurs et on est interdépendants. Mmh. Et quelqu'un disait, voilà, l'œuvre de Dieu, hein, c'est l'opposé, c'est pas la dépendance, c'est l'interdépendance. Et c'est vraiment cela, le corps de Christ et les dons hein, qui nous sont accordés par grâce sont là aussi pour faire vivre cette interdépendance, tout ça pour l'œuvre de notre Dieu. Alors, on va un petit peu regarder ces dons-là qui sont mentionnés ici avec l'idée juste déjà de dégrossir un petit peu, de savoir de quoi on parle. Et déjà, si on sait de quoi on parle, on peut éliminer beaucoup de discussions et peut-être même de dissensions. Déjà, si on savait de quoi on parlait, peut-être que ça peut orienter notre compréhension. Donc on va essayer de voir un petit peu de quoi on parle, et peut-être qu'on le fera assez rapidement sur certains dons, et on s'arrêtera plus longuement sur d'autres. Alors, on prend donc le verset 8, je vous le lis. « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. » Alors, on va s'arrêter déjà sur la parole de sagesse. Alors, sagesse, connaissance, prophétie. Parfois, c'est interprété comme une communication qu'un initié pourrait donner à quelqu'un d'autre. Tu vois, hein. Le Seigneur m'a dit de te dire ceci, de te dire cela. Hein, voilà. Des fois, c'est compris comme cela. Et, petite parenthèse, des fois avec beaucoup de sincérité, mais on a aussi à être vigilant lorsque quelqu'un vient vers nous en nous disant « le Seigneur m'a dit que tu dois me faire un chèque de 50 000 euros, ça c'est Jean-Philippe. » Alors je reciterai pour montrer qu'on a à être vigilant, et on a vraiment à être vigilant, même si effectivement, souvent c'est avec beaucoup de sincérité. Mais concernant la sagesse, il y a un passage qui nous en parle énormément, que nous avons déjà lu, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 20 à 31, on ne va pas tout lire, parce que le temps passe très très vite, mais juste quelques extraits. Donc il y a cette question que Paul pose, où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Important, les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié. Déjà, on voit qu'il y a une opposition entre la sagesse humaine et l'œuvre de Christ, Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Et il va dire, folie pour les païens, mais sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. La Jésus-Christ crucifié, le message de la croix, c'est la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. On a déjà là une indication qui est assez importante sur la définition de la sagesse. Et puis il va continuer, considérer que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, etc. Et puis il va dire ceci, « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. » afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Jésus-Christ a été fait pour nous, sagesse. Donc, parole de sagesse, c'est automatiquement une parole qui va montrer Jésus-Christ. Puisque c'est Jésus-Christ qui a été fait pour nous, sagesse, une parole de sagesse automatiquement montre Jésus-Christ. Quand on prend aussi les textes du Nouveau Testament, on voit que souvent la sagesse est associée aux paroles, entre autres, que Jésus a prononcées ou que les apôtres ont prononcées. Je vous ai mis un exemple dans Marc au chapitre 6, le verset 2. « Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendent dire étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ?» Donc, en entendant Jésus, quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et puis, quelque part, quand on réfléchit un petit peu à cela, on se dit ben, « Qu'est-ce que c'est finalement une parole de sagesse ? » C'est une parole qui montre Jésus-Christ. Et peut-être qui montre Jésus-Christ dans la vie de tous les jours. Donc c'est une parole qui va permettre bien d'agir dans notre quotidien selon la pensée de Jésus-Christ. Il y a un livre que je crois que c'est Georges qui l'aime beaucoup et qui le cite souvent, « Que ferait Jésus à ma place ?» Hein. Peut-être que c'est ça. Hein, tout simplement, cette parole de sagesse, voilà, c'est simplement, mais voilà. Voilà ce que Jésus ferait, voilà ce que tu dois faire. Hein. Parole de sagesse. Et puis, même si certains ont ce don, hein, ce ministère bien particulier, c'est quand même quelque chose que nous devons aussi rechercher. Et il y a un Jacques chapitre 1, verset 5, qui dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, et qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche. » Alors, parole de connaissance, là aussi c'est un petit peu... Oui.
Attends, la parole de sagesse donne l'exemple de Jésus. Une super connue, c'est... Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'était une parole de sagesse.
Tout simplement. Oui, tout simplement. Ouais. Ouais. Donc, ouais. Merci Didier. Alors, parole de connaissance. Alors, c'est toujours une capacité orale, comme la parole de sagesse. Parole, c'est logos, c'est une capacité orale, avec peut-être des similitudes avec ce qui précède la parole de connaissance. Là aussi, c'est souvent compris comme voilà, une parole qui serait adressée à un frère, toujours à une sœur, par un initié, hein, et qui aurait une révélation. On pense toujours à Pierre avec Ananias et Saphira, mais quand on lit les textes, pas forcément. Certains vont même appuyer cela tellement que ça fait presque l'équivalent chrétien de l'horoscope. Hein. Et on se rend compte avec les textes et les versets qui utilisent ce terme que c'est pas ça. Hein, que c'est pas ça. Alors, il est utilisé 28 fois dans le Nouveau Testament. Souvent, il se traduit par science. Mais regardez dans 2 Pierre chapitre 3, verset 18. « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Donc, pardon ? Non, mais...
La référence.
Je ne vous l'ai pas mis la référence, ah, désolé.
C'est...
Oui, merci. Mais en fait, la référence là que je vous cite, de Pierre 3, 18, je me suis trompé, c'est pas... je ne vous l'ai pas mis. Hein. Je vous la cite simplement. « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Connaissance, c'est le même terme qui est utilisé pour sagesse. Vous voyez, il y a déjà une idée aussi de proximité avec Jésus-Christ. Le chapitre qui nous parle le plus de la sagesse, c'est 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8, et là je vous l'ai mis, je vous lis le verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, vous vous rappelez de cette étude, hein, c'est Stéphane qui nous l'avait donné. Nous savons que nous avons tous la connaissance. Et donc, ce mot connaissance, c'est celui aussi qui est traduit ici par, par sagesse, par connaissance, pardon. Je me mélange, excusez-moi, je me suis mélangé. Et puis, toujours le verset 7, cette connaissance n'est pas chez tous. Alors, je crois que je suis passé trop vite sur sagesse, c'est ça ? Non, non, je suis bien là. Donc, comme je ne suis pas mes notes, je me suis un peu perdu.
Oui, tu as oublié de donner la référence de Jacques 1, 5 au niveau de la sagesse.
Bon, d'accord, bon, merci. Bon, c'était juste ça. C'était juste ça. Vous avez suivi, c'est ce qui compte.
Ça a été donné.
Merci.
C'est Jacques 1, 5.
Ouais. Donc là, on est à connaissance. Donc je reprends le passage qui en parle le plus, c'est le chapitre 8 de 1 Corinthiens. Et là, on voit qu'en fait, cette connaissance, elle est associée à cette liberté que nous pouvons donc avoir en Jésus-Christ. Cette connaissance nous apporte cette liberté. Et donc, on peut dire cette parole de connaissance, voilà, elle apporte la liberté. Et un frère, une sœur qui a cette parole de connaissance va peut-être pouvoir nous permettre d'avoir cette proximité avec le Seigneur et donc de vivre cette liberté que le Seigneur nous donne. En d'autres termes, quelque part, la connaissance, c'est la compréhension de la profondeur de la parole de Dieu. La compréhension vraiment profonde de ce que Dieu nous dit et qui nous permet après d'avoir cette vie en abondance qui nous est promise par notre Dieu. Et est-ce que cette parole de connaissance, elle est réservée à ceux qui sont derrière la chair? Absolument pas. Et moi, je peux vous témoigner que, déjà, j'ai discuté avec des sœurs, des frères, et qui me témoignaient que, voilà, j'étais dans telle situation, et j'en ai parlé à ce frère, à cette sœur. Et puis, il m'a donné ce verset, il m'a donné ce conseil. Et vraiment, ça a été vraiment extraordinaire pour moi. Et je dis, mais franchement, il n'y a pas mieux. Il ne pouvait pas avoir une meilleure parole. Et c'est un frère, c'est une sœur qui a vraiment ce don, ce don de connaissance, et qui t'a permis d'appréhender et de vivre cette liberté que tu peux avoir en Christ. Voilà donc un petit peu ce qu'on peut dire sur cette parole aussi de connaissance, parole de sagesse, parole de connaissance. Quelque part, on peut aussi s'en rendre compte lorsqu'on est en discussion et qu'on n'arrive pas à trouver une solution et que quelqu'un apporte quelque chose. On dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant ? Et voilà, il a apporté une parole de sagesse, une parole de connaissance qui nous permet de vivre ce que Dieu nous demande dans sa parole et de l'adapter à notre quotidien. Alors on continue. Et donc on passe à la foi, donc c'est le verset 9. À un autre est donnée la foi par le même esprit. La foi. Alors, je vous ai mis ici Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas être sauvé. Un autre verset aussi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc il est évident que la foi dont il est question ici dans 1 Corinthiens n'est pas sur le même niveau que la foi dont nous parle Paul aux Éphésiens ou dont nous parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il ne s'agit pas de la foi qui sauve, il s'agit d'autre chose. Et on pense notamment, par exemple, c'est le centenier romain, je crois que c'est lui, qui est venu voir Jésus parce que sa fille était malade, prête à mourir. Et Jésus voulait aller chez lui, il lui a dit, mais c'est pas la peine, je suis soumis à des supérieurs, je suis des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va, il va, à l'autre vient, il vient. Et Jésus va dire, mais il est étonné, il va dire, mais même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Et donc on voit que voilà, il y a quand même des personnes qui ont une foi profonde, et cette foi est précieuse pour l'œuvre de Dieu. Je vous donne un exemple très très précis, toujours dans notre église. Après M. Le Flaec, ça a été Norbert Clément qui est venu comme pasteur, et à l'époque, l'église était peu nombreuse, il y avait un petit appartement rue Maréchal Joffre, voilà, et puis qui était trop petit, et il fallait essayer de trouver des solutions. Et c'est Norbert qui a un petit peu initié pour que l'Église se lance avec l'achat de ce bâtiment, les travaux qui ont été très importants puisque c'était une grange, et donc un financement que l'Église n'avait pas. Vous me corrigez, c'est parce que moi je n'étais pas là à l'époque, si je me trompe. Et en fait, qui c'est qui avait le plus grand risque là? Qui c'est qui prenait tous les risques? C'était Norbert, il avait une famille à charge, l'Église, donc il dépendait de l'Église financièrement. L'Église devait faire un emprunt pour acheter le bâtiment plus les travaux. C'est lui qui prenait tous les risques. Mais il avait cette conviction que c'était dans la volonté de Dieu et que le Seigneur allait bénir. Et donc, il avait vraiment cette foi et qui a permis d'entraîner toute l'Église locale vers ce projet qui après était une bénédiction puisqu'il a permis à l'Église de grandir avec des conversions, etc. Donc voilà, c'était un homme de foi qui a entraîné, mais à sa suite, toute l'Église. Vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose aussi qui est précieux. Et c'est vrai que on pense aussi à Georges Müller. Georges Müller avait l'orphelinat, qui n'avait rien pour nourrir les enfants qu'il avait à charge. Et puis un jour, il raconte que c'était le petit déjeuner ou le déjeuner. Il leur demande de se mettre à table, il n'avait absolument rien. Ils ont prié pour remercier le Seigneur pour le repas, et puis ils n'avaient rien. Et puis quelqu'un a tapé à la porte. Et c'était en fait le laitier, je crois, qui a dit, mais je suis désolé, mais juste devant chez vous, là, mon chariot, ça a une roue à casser. Et pour réparer, on est obligé de sortir tout le lait. On ne sait pas comment faire. Est-ce que ça vous serait utile? Et ben, merci Seigneur. Et Georges Müller raconte que voilà, des choses comme ça, ça lui est arrivé. Des hommes de foi qui permettent aussi d'entraîner à leur suite eh bien, toute l'œuvre de Dieu et ainsi édifier le corps de Christ. Et quelque part, c'est vrai que c'est un don particulier, on le voit ici, qui est donné à certains, mais nous avons tous aussi une responsabilité à ce niveau-là. Et dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, il nous est dit, nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun d'entre vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Votre foi fait des grands progrès. Question, comment ma foi peut faire de grands progrès? Concrètement et pratiquement, comment je peux faire pour que ma foi fasse de grands progrès?
Il faut la mettre à l'épreuve.
Oui. Il faut la mettre à l'épreuve.
Oui, enfin, à l'épreuve, il faut la tester. Quoi.
Oui. Alors, c'est vrai que Dieu peut tester notre foi.
La parole de Dieu.
Mais il y a aussi quelque chose de tout simple pour que notre foi grandisse. C'est la parole de Dieu. Parce que Romains, chapitre 10, verset 17, rappelez-vous ce verset, apprenez-le par cœur. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ, en fonction des traductions. Notre foi est alimentée par la parole de Dieu. Donc on peut dire que celui qui a ce don de foi particulier, c'est automatiquement une personne, une sœur, un frère, qui étudie, qui médite la parole de Dieu. Il ne peut pas en être autrement, notre foi vient de la parole de Dieu. Et nous avons cette responsabilité, que notre foi fasse de grands progrès, tout simplement en nous nourrissant de la parole de Dieu. On passe à la suite. Le don des guérisons. Je vois que c'est moins 10. Peut-être qu'on dépassera de 5 minutes. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, que vous ne me balancerez pas des tomates. Si ce sont des avocats, j'aime bien, les tomates, j'aime pas.
Donc, juste pour la foi aussi, je pense que tout simplement, on peut aussi humblement, quand on reconnaît qu'on en manque, la demander à Dieu. Parce que c'est ce qu'ont fait les disciples, ils ont dit « Viens au secours de notre incrédulité ». Et dans Hébreux, au chapitre 12, je crois, le début du chapitre, il dit que c'est Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Donc, la demander tout simplement aussi, en plus de tout ce qu'il y a.
Bien sûr. Ouais. Alors, on passe au don des guérisons. Alors, je dis bien, c'est même les dons des guérisons. Qui est la forme employée, les dons des guérisons. Moi, je vous ai mis ici le don de guérison, il faut que je le passe parce que voilà, le don de guérison. Alors, on va lire un texte dans Actes au chapitre 2, les versets 12 à 16. Est-ce que quelqu'un veut le prendre?
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux.
Ah, je me suis trompé.
C'est le verset 12, là elle lit le verset 1.
Ah d'accord, donc c'est le verset 12 si tu veux. À partir du verset 12 jusqu'au 16.
Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres.
Non, je me suis trompé. C'est pas du tout celui-là. Ça doit être à Pétro chapitre 5. Vous allez m'aider, sinon ça ne fait rien. Je vais vous le citer.
Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes. Oui, c'est 5.
C'est
5. Oui, 5, 12 à 16.
Voilà. Donc, pardon, c'est le chapitre 5, versets 12 à 16. Tu peux le lire?
Oui. Bon,
beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues, et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris.
Voilà, donc le don de guérison. Et ici, peut-être que c'est à cela que Paul fait allusion. Il nous est dit que la multitude accourait, donc tous les malades, et tous étaient guéris. Là, je crois que déjà c'est quelque chose qui était, nous met déjà un petit jalon pour la compréhension des guérisons. Tous étaient guéris. Et même lorsque l'ombre de Pierre passait, ils étaient guéris aussi. Alors, juste une petite question. C'est une multitude qui était là. Est-ce que tous avaient la foi? Parce que vous entendrez des fois, alors la semaine dernière on a parlé un petit peu donc de ces doctrines qui affirment qu'un chrétien ne peut pas tomber malade. Et quand il y a un chrétien qui n'est pas guéri, souvent, ce que l'on entend, c'est que ben, si tu n'as pas été guéri, c'est que tu n'as pas la foi. Tu manques de foi, tout simplement, c'est pour ça que tu n'as pas été guéri. Moi, je me pose la question, est-ce que sur la multitude, là, tous avaient la foi? Bon, question ouverte. Ça m'étonne un petit peu, mais enfin, pourquoi pas?
Non, on peut dire que tous n'avaient pas la foi, parce qu'il y a un autre passage dans les évangiles, je ne sais plus si c'est dans Marc, je crois, mais il y a écrit, malgré tous les miracles qu'il avait fait au milieu d'eux, ils ne croyaient pas en lui. Donc les miracles qu'il avait fait, même les guérisons, ne donnaient pas nécessairement la foi.
Exactement.
J'ai plus la référence voilà. Là.
Merci Stéphane. Et puis même des personnes qui ont été guéries. Je vous donne aussi un autre exemple. Lorsqu'il y a ce malade qui est auprès d'une piscine, ça fait je crois 38 ans qu'il est là, et puis il faut qu'il se jette dans l'eau lorsque l'eau est agitée, et Jésus passe et lui demande « Veux-tu être guéri ?» Et lui, il ne demande pas à Jésus de le guérir. Donc on voit qu'il ne connaît même pas Jésus. Et il dit, mais Seigneur, j'ai personne qui me jette dans l'eau, donc moi je suis impotent, je ne peux pas y aller, donc je ne suis jamais guéri. Et Jésus va le guérir. Et il lui dit, c'est le jour du sabbat, prends ton lit, puis va-t'en. Et cet homme se fait arrêter par les pharisiens. Les pharisiens lui disent, mais pourquoi tu fais ce qui est interdit le jour du sabbat? Et bien celui qui m'a guéri m'a demandé de faire cela. Qui c'est? Il ne sait pas qui c'est. Et il rencontre Jésus ensuite, et Jésus va lui dire ceci. Donc il sait à partir de là que c'est Jésus qui l'a guéri. Jésus va lui dire ceci, c'est d'ailleurs étrange et on comprend, hein, ça nous fait comprendre la mentalité de cet homme qui a été guéri. Il va lui dire, va et ne pêche pas, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Voilà, Jésus lui donne un avertissement. Et que fait cet homme? Tout de suite après, il va voir les pharisiens et leur dit, ben, celui qui m'a guéri c'est Jésus. Alors qu'il sait très très bien l'état d'esprit des pharisiens qui vont vouloir s'en prendre à Jésus. Et il nous a dit que, eh bien, à partir de là aussi, il cherchait à faire mourir Jésus parce qu'il faisait ses miracles le jour du sabbat. Cet homme-là, dans son attitude, on voit qu'il n'avait absolument pas la foi. Et pourtant, il a été guéri. Alors, il y a d'autres passages aussi qui nous disent que Jésus ou les disciples n'ont pas pu guérir parce que les personnes n'avaient pas la foi. Mais ce que je veux faire remonter par là, et merci aussi Stéphane, c'est que ce n'est pas un argument de dire si tu n'as pas été guéri, c'est parce que tu n'avais pas la foi. Ça, c'est un argument qui ne tient pas Bible en main. Alors, on va un petit peu continuer. Je voudrais vous poser une question. Donc, en prenant cette doctrine qui dit que donc, les chrétiens doivent être, ne sont pas malades, doivent guérir systématiquement, et puis aussi ne sont pas dans la pauvreté. Hein, donc, santé et richesse pour les chrétiens. On s'en reste juste à la santé parce que le reste ne fait pas partie de notre texte et on a déjà assez à voir là-dessus. Mais si quelqu'un vous dit, voilà, un chrétien, c'est pas possible, un chrétien ne doit pas être malade, un chrétien, il doit être guéri systématiquement, et on va vous donner des passages pour vous montrer qu'un chrétien doit être guéri. Il faut pouvoir répondre aussi, et c'est pour cela qu'il faut avoir des éléments pour se plonger dans la parole de Dieu, et avoir comme cela une certitude, un fondement basé sur la parole de Dieu. Il y a beaucoup de passages qui sont pris par cette doctrine, mais le principal, nous nous trouvons dans Ésaïe, chapitre 53, versets 4 et verset 5. Vous connaissez par cœur, je vous le lis, mais vous pouvez le suivre aussi. Je vais le prendre dans le texte directement. Ça sera plus facile. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je vous lis le verset 4, pardon. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a fait est tombé sur lui et c'est par ses mains précieuses que nous sommes guéris. C'est ce passage qui est souvent pris, mis en avant, avec celui aussi que l'on trouve de son écho là dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, où Pierre reprend aussi ce texte. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui-même par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et on dit voilà, en fait, les meurtrissures de Jésus eh bien, nous assurent la guérison sur cette terre. Et il y a aussi une réflexion qui est donnée en parallèle, qui dit ceci, c'est que dans l'Ancienne Alliance, les animaux étaient offerts en sacrifice, mais ils n'étaient pas torturés, ils ne souffraient pas. Ils étaient offerts en sacrifice pour les péchés, mais ils ne souffraient pas. Ils étaient tués d'un seul coup. Et donc si Jésus a souffert, hein, il est mort pour nos péchés, mais s'il a souffert, c'est pour notre guérison physique. Voilà un petit peu hein, les arguments qui sont donnés, avec d'autres aussi, mais ça c'est l'argument principal. Alors, on prend dans Matthieu chapitre 8, et on va prendre les versets 16 et 17. Et j'espère que je ne me suis pas trompé dans les références. Oui, tu peux le lire.
Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait annoncé. Il a pris une faiblesse et il s'en est chargé de nos maladies.
Voilà. Donc on voit que déjà le verset 4 d'Esaïe 53, il a été accompli par le Christ lors de son ministère terrestre. Et ça, c'était dans quel but? C'était dans le but eh bien, de montrer qui il était vraiment, qu'il était le Messie. Et donc là, c'est très très clair, cette partie-là, déjà, elle a été accomplie par le Christ, mais simplement lors de son ministère terrestre. Mais après, bon, on va dire, mais oui, mais bon, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce que les meurtrissures s'appliqueraient aux maladies physiques hein? Est-ce que nous sommes guéris? Est-ce que ça s'applique aux maladies physiques? Alors là, il faut prendre le contexte d'Ésaïe 53. On prend le contexte. Et qu'est-ce qu'on voit? Le verset 6. « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » L'iniquité. Et non pas les maladies. Ensuite, le verset 8. « Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, donc les souffrances, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. » Les péchés. Et non pas les maladies. Le verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Et puis verset 11, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Donc tout le contexte nous montre quoi? Qu'il ne s'agit absolument pas des maladies physiques, mais qu'il s'agit bien de notre maladie spirituelle et du péché. Ça nous parle de l'œuvre de substitution merveilleuse de Jésus-Christ. Substitution, hein, il a pris notre place. C'est nous qui méritions ses souffrances, et lui, il a pris notre place pour nos péchés. Et si on prend les sacrifices des animaux selon cette alliance, et il y a Colossiens chapitre 2 qui nous dit que toutes ces pratiques-là étaient l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Toutes ces pratiques-là, hein, tous ces sacrifices, ils étaient faits pour quoi? Pour les péchés du peuple. Et il y a énormément de passages qui nous montrent qu'ils étaient là, ils étaient offerts pour le péché du peuple et non pour la maladie. Par exemple, en Lévitique chapitre 16, il y a le récit avec les boucs émissaires. Et il y a un bouc qui est offert en sacrifice pour le péché. Et sur l'autre, le souverain sacrificateur pose ses mains pour, en quelque sorte, d'une façon symbolique, transférer sur lui tous les péchés du peuple d'Israël. Et ensuite, ce bouc est envoyé dans le désert dans une terre aride. Mais ça, c'est, il le fait pour les péchés du peuple. Et comme on sait que c'était l'ombre des choses à venir, que la réalité est en Christ, on comprend que c'est une illustration de l'œuvre de Christ qui est une œuvre pour nos péchés. Et il y a beaucoup de références qui, dans le Nouveau Testament qui nous le donnent, notamment, on ne va pas tout lire, je vous ai mis toute cette suite là dans Hébreux, il y en a aussi dans 2 Corinthiens, je prends juste Hébreux chapitre 1, si quelqu'un l'a avant moi, il peut le lire, les versets, Hébreux, les versets 3.
Étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts.
Merci. Il a fait la purification des péchés. Il a fait la purification des péchés. Et on retrouve ça dans tout au long, notamment du livre aux Hébreux, mais pas simplement. De Corinthiens, chapitre 5, verset 21, Jésus est devenu péché pour nous, et non pas maladie. Et le contexte d'Ésaïe 53 ne dit pas autre chose. Le contexte, c'est vraiment pour nos péchés et non pas pour la maladie. Alors quelqu'un va dire, oui, mais bon, quelque part le péché, c'est la conséquence de la maladie. Et c'est vrai. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu la chute dans le Jardin d'Éden, il n'y avait pas besoin. Pardon ? La maladie, c'est la conséquence du péché. Merci. La maladie, c'est la conséquence du péché. C'est vrai, parce que dans le Jardin d'Éden, il n'y avait pas de médecin, c'était pas la peine. C'est vrai que la maladie est la conséquence du péché. Ça peut être un péché direct, comme on l'a vu avec 1 Corinthiens chapitre 11, lorsque Paul dit « Ne prenez pas de façon inconsidérée le pain et la coupe, parce que celui qui prend cela de façon inconsidérée sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Donc ça peut être effectivement une conséquence directe, mais très très souvent c'est une conséquence indirecte. C'est parce que le péché est entré dans le monde, et donc automatiquement la maladie aussi est entrée dans le monde. Mais quelle est la principale conséquence du péché ? La mort. La mort. Et cela nous est dit entre autres dans Romains chapitre 5 verset 12, « Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, » et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. C'est la mort qui est la conséquence première et principale du péché. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons la vie éternelle. Nous sommes certains que notre place est prête dans les cieux. Il nous a préparé une place, il va revenir nous prendre avec lui. Mais il n'empêche que nous passerons tous par la mort physique. Alors pourquoi, puisque nous allons tous passer par la mort physique, pourquoi ce qui serait valable pour la mort ne serait pas valable pour le péché ? Et pourquoi pour la maladie, pardon. Pourquoi cette conséquence du péché qui est la mort, eh bien on ne l'aurait pas aussi pour la maladie physique ? Là aussi, il y a une anomalie. Et on ne peut pas prendre ces textes-là et les comprendre ainsi. Et puis juste, je vous cite encore d'autres passages.
On ne mourra pas tous.
Pardon ? Oui, tu as raison. Tous, comme dit, alors ça a été cité par Stéphane dimanche, les morts en crise ressusciteront les premiers, et nous les vivants, nous les rejoindrons. Hein. Mais tu as raison, hein, merci pour la précision. Mais si on est enlevé par le Seigneur là, tout de suite, on ne passera pas par la mort. Mais ou sinon, si le Seigneur use encore de patience, peut-être que nous passerons par la mort physique. Et donc la conséquence du péché, c'est la mort physique.
Des fois, il y a des doutes entre nous et les chrétiens qu'on ne meurt pas physiquement. Dieu peut Élie et Luc, ils n'ont pas eu la mort physique.
Oui.
Alors il y a des chrétiens qui se mettent en cause et qui ne vont pas avoir la mort physique.
Alors là, c'est quand même un petit peu aller aussi au-delà du texte, parce qu'on, oui, il y a donc deux personnes qui ne sont pas passées par la mort physique. Mais je ne pense pas que dans la parole de Dieu on ait d'autres exemples ainsi, et c'était donc des exceptions. Mais sinon, chacun d'entre nous, soit le Seigneur vient nous chercher dans notre vivant, soit alors on passe par la mort physique qui est une conséquence du péché, Et donc, puisqu'on est atteint par la mort physique, eh bien, pourquoi ne pas être aussi atteint par la maladie ? Et je vous lis ceci dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, jusqu'au chapitre 5, verset 2. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, donc notre corps se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères dans notre corps, il est visible dans notre corps physique, les choses visibles sont passagères, et les choses invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si cette tente, nous habitant sur la terre détruite, se meurt, à dire, si notre corps, cette tente, nous habitant sur la terre, donc une tente c'est fragile, et donc il y a cette idée de fragilité, si cette tente sur laquelle nous habitons est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile terrestre. Et l'idée ici, c'est que cette fragilité, notre corps, et on sait que même si on est en bonne santé, il faut un petit grain de sable, pas plus pour que voilà, tout soit remis en question. Cette fragilité-là, quelque part, elle a un intérêt parce qu'elle nous pousse à regarder au-delà, à regarder vers notre espérance, vers notre demeure éternelle. Et un texte aussi qui est à peu près similaire dans 1 Corinthiens, toujours au chapitre 15, versets 49 à 54. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang dans notre corps ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, et là on rejoint ce que tu nous disais, Didier. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible, il y a des traductions qui disent, il faut que ce corps périssable revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Et là, Paul, il est très très clair. Notre corps, notre corps physique est un corps corruptible et il faut qu'il soit changé. Et puisqu'il est un corps corruptible, forcément, il peut être atteint par la maladie. Et la maladie, bien entendu, que Dieu peut nous ôter, mais selon sa souveraineté, il va choisir un chemin ou un autre. Et ça, il va le faire selon sa sagesse pour notre bien. Et la foi, c'est de croire que ce qu'il fait est pour notre bien, parce qu'on sait que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et même si je ne vois pas qu'elle est agréable, parce que je suis dans la tourmente, la foi, c'est de saisir ce que Dieu me dit dans sa parole et de le faire mien. Et c'est ce que nous dit ici Paul. Et une autre référence dans Romains chapitre 8, verset 28. Verset 18, pardon. On va lui lire juste aussi quelques extraits pour ne pas trop prolonger. Après, c'est quand même un sujet qui est important. Et c'est, essayer de reprendre ces versets aussi, vous aussi, pour bien les étudier et avoir des certitudes. Paul va dire, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir à la révélation des fils de Dieu. Et puis, je saute. Et ce n'est pas elle simplement la création, verset 23, mais nous aussi, nous qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. On attend la rédemption de notre corps. Et il continue, c'est en espérance que nous sommes sauvés, parce que, en fait, notre salut sera total, complet lorsque nous serons avec le Christ en Dieu. Il est complet actuellement, mais il sera, on va dire, effectif dans sa globalité, dans toute sa beauté, lorsque nous serons avec notre Seigneur. Et cette espérance, quelle est-elle? Eh bien, Paul va être assez précis, et il va dire au verset 29, « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Voilà notre espérance, c'est de devenir semblable à Jésus-Christ. Mais c'est une espérance qui ne trompe pas. Mais en attendant, eh bien, nous sommes dans cette situation où nous attendons la totalité de notre salut qui sera effective quand nous serons avec notre Seigneur dans les cieux. Et on pourrait parler aussi, bien sûr, de l'écharpe dans la chair de Paul. On pourrait parler aussi de beaucoup de choses. Mais comme le temps passe très très vite, on va sauter. Et simplement, on va pas aller jusqu'au bout. J'espérais pouvoir aller jusqu'au bout de cela. Je voudrais simplement vous dire que on peut avoir une réflexion, dire mais quand même, dans Isaïe 53, il est bien parlé de guérison. Hein. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et quand on prend tous les textes qui contiennent ce mot guérison, on va se rendre compte qu'il est souvent traduit par guérison. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et c'est un verset qui est aussi utilisé pour montrer que voilà, l'Éternel guérit. Donc aujourd'hui, il est toujours le même. Je suis l'Éternel qui te guérit encore aujourd'hui. Il est utilisé pour guérison, mais pas que. Il est utilisé aussi, par exemple, lorsque Élie va être devant les prophètes, il va rétablir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Rétablir, c'est ce même terme qui est utilisé dans Ésaïe pour guérison. Ailleurs, il va être utilisé pour assainir. Lorsque c'est Élisée qui va mettre du sel dans une source, et voilà, les eaux ont été assainies. Donc on voit qu'en fonction du contexte, les traducteurs ont utilisé pour ce même mot hébreu plusieurs termes français. C'est le contexte qui va nous éclairer. Et donc guérison au niveau d'Ésaïe, ça ne peut être qu'une guérison spirituelle qui est ô combien plus importante que la guérison physique, parce que de toute façon, notre corps est un corps qui est amené de toute façon à s'arrêter. Mais notre guérison physique et spirituelle, elle, c'est pour l'éternité. Donc on voit que le contexte des Ésaïe 53 eh bien, nous montre que c'est vraiment la guérison spirituelle. Et juste dernier truc, et puis je m'arrête. Lorsqu'on prend le texte, ou les textes qui disent « Je suis l'Éternel qui guérit », ce sont des textes de l'Ancien Testament. Et Dieu s'adresse à son peuple. Et son peuple, le pays, est-ce que c'était un pays terrestre ou est-ce que c'était un pays céleste? C'était un pays terrestre, Canaan, la terre promise. Et donc il est bien évident que de nombreuses promesses étaient des promesses terrestres puisqu'elles étaient pour un pays aussi terrestre. Donc quand il y a ces promesses de bénédiction qui vont se traduire par une prospérité matérielle, une prospérité dans la santé, c'est normal, puisque c'est un royaume terrestre pour Israël, dans l'Ancien Testament. Mais nous, notre cité à nous, elle est dans les cieux. Et donc les bénédictions que Dieu nous donne, ce sont des bénédictions qui sont pour notre royaume céleste, notre Jérusalem céleste, lorsque nous serons réunis avec lui. Et donc là aussi, quand on prend le contexte général, si on prend des promesses qui sont faites pour Israël et qu'on les applique à nous aujourd'hui, on fait fausse route. On prend des textes hors contexte. Et surtout, soyez très très attentifs, parce que souvent, ces doctrines-là sont étayées par des textes, on n'a pas le temps, sinon j'aurais pu vous donner des exemples, des textes qui sont pris hors de leur contexte, et qui donc ne veulent pas dire ce qu'on veut leur faire dire. Voilà, juste, bon, désolé, j'ai débordé, et j'ai accéléré. Bon, on continuera du roulant dans un mois. Voilà. On va simplement arrêter là. Et si quelqu'un veut prier pour... Oui, on a dit. Si quelqu'un veut prier, c'est vraiment pour terminer.